Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode spécial de Noises. Je suis Pauline Ayoun et je travaille chez Bababam depuis 2 ans et demi dans l'équipe éditoriale. Et avec mon équipe et toute l'équipe de production, on a travaillé sur la 3e saison de Noises. Alors Noises, si vous ne le savez pas, ce sont des podcasts de fiction, mais c'est aussi une série de podcasts bonus pour vous faire justement découvrir les coulisses de production de cette fiction. La 3e saison de Noises est sortie en juin 2022 et c'est une première. Mais dans cette saison, il y a 2 épisodes qui reviennent sur des faits historiques qui se sont vraiment passés. Ça va donc être le sujet de ce premier épisode bonus, les faits historiques dans la fiction sonore. À cette occasion, on reçoit donc au micro de Noises 2 auteurs qui ont contribué à l'écriture de ces épisodes, Vincent Rébois et Christian Brugerolles, et la personne aussi qui a monté ces 2 épisodes géniaux, Jean-Gabriel Rassa. Donc avant de commencer, petite présentation. Donc Vincent, t'es l'auteur du Barrage de Malpasset, qui est le premier épisode de cette 3e saison de Noises. Tu es auteur et rédacteur dans la publicité. Tu as également écrit le thriller audio Queens of Snakes, produit par Au revoir Charlie Productions, podcast dans lequel on peut entendre les voix de Mathilda May, Malik Bentala ou encore Joey Starr. Bienvenue donc, Vincent.
Merci.
Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ton parcours et comment, du coup, t'es passé de la publicité à l'écriture de fiction ?
Oui, alors, je ne suis pas vraiment passé de l'un à l'autre puisque je continue les deux en même temps. Mais j'ai un parcours, on va dire, d'écriture sur différents formats. J'ai toujours aimé écrire. Et j'ai commencé par écrire des courts-métrages, faire des web-séries. J'ai découvert la fiction audio grâce à Au revoir Charlie, avec qui j'ai fait donc Queens of Snakes. Et ce qui m'a plu dans ce format, c'est la capacité de créer finalement des choses qu'on ne peut pas forcément faire à l'image, par exemple pour des raisons de moyens, de production. Et chacun aussi, en tant qu'auditeur, va pouvoir, avec le son, recréer son propre univers. Par exemple, si on a une scène qui se passe dans une maison, chacun va dessiner dans sa tête la maison de la scène, etc. Donc j'aime beaucoup le format pour cette raison, puisque on est à mi-chemin entre la littérature et en même temps un côté assez cinématographique, parce qu'on peut avoir par exemple des passages musicaux, on peut avoir du sound design qui va également nous raconter des choses. Donc je trouve que c'est vraiment un format très intéressant et aussi très émotionnel, parce qu'on est vraiment au plus près de ce que vont nous dire les comédiens. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une façon de jouer pour les comédiens dans la fiction audio qui est assez particulière. C'est différent du théâtre, différent du cinéma. Et je trouve que c'est extrêmement fort selon les scènes qu'on peut avoir. Voilà.
Christian, du coup, toi, tu es l'auteur de La Fosse, qui fait également partie de la dernière saison de Noises. Donc, tu as écrit cet épisode accompagné de Tanguy Blum et d'Antoine Piombino. Donc, vous avez tous les trois coécrit Projet Orlov pour France Culture, dont la saison 2 entre en production à la rentrée, et de 2 fictions radio pour France Inter, Nikola Tesla, Des éclairs plein la tête, et 1939, Cannes, édition 0, dans le cadre de l'émission Au fil de l'histoire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, peut-être sur ton parcours, et du coup, comment toi aussi t'en es arrivé à l'écriture de fiction sonore ?
Avec plaisir. Juste pour préciser, pour Inter, c'était avec mon co-auteur Olivier Magdelaine. Et avec Antoine et Tanguy, effectivement, on a écrit ensemble Projet Orlov pour Culture, dont la saison 2 va finalement entrer en production. Et on a d'autres projets sur le feu, sans doute aussi peut-être avec vous à l'avenir. Donc pour revenir à mon parcours, c'est justement par France Inter que j'ai commencé à écrire pour la radio. Donc moi, je suis vraiment un auteur uniquement audio pour l'instant. On a commencé donc par 2 œuvres de commande pour l'émission dont tu rappelais l'existence, qui s'appelle aujourd'hui « Autant on emporte l'histoire ». Et c'est vrai que, comme le rappelait Vincent, il y a une grammaire de l'audio, il y a une façon de travailler qui nous a tout de suite plu à mon co-auteur de l'époque et moi-même. Et ensuite, j'ai continué l'aventure avec Antoine et Tanguy pour Culture. Là, sur des choses beaucoup plus longues, beaucoup plus ambitieuses, on est sorti des studios, on a fait du tournage en décor réel, de l'enregistrement en décor réel. On a eu aussi des comédiens un peu plus connus, comme Pierre Deladonchamp, Lou Delage... voilà, je ne vais pas faire un catalogue à la Prévert, mais voilà, c'est cette expérience-là qui a été, je pense, structurante et qui nous a donné envie de continuer pour l'anthologie Noises.
Est-ce que, donc là, tu citais des comédiens, Lou Delage, etc. Toi, Vincent, dans Queens of Snakes, on a aussi entendu des voix assez connues comme Joey Starr, etc. Est-ce que vous pensez qu'on en est enfin au moment où la fiction sonore se démocratise à tel point que des acteurs qu'on a l'habitude de voir au cinéma, etc., s'intéressent aussi à la fiction sonore ? Est-ce qu'on en est enfin arrivé à ce point-là qu'on attendait tous ?
Bah, ça dépend ce qu'on entend par démocratisation. Moi, je pense que, en tout cas, l'expérience que j'ai eue sur Queens of Snakes a montré qu'il y avait un public qui était immense pour la fiction audio, parce qu'on voit que la plupart des auditeurs ont écouté la série jusqu'à la fin. Il y a eu des centaines de milliers d'écoutes. Donc, dans ce sens, j'ai l'impression que ça se démocratise, puisqu'effectivement, il y a une audience qui est très large. Et quant aux comédiens, effectivement, je pense qu'ils ont aussi peut-être la sensation que quelque chose se passe là. C'est aussi une forme d'expression nouvelle. Et moi, je continue à penser qu'il y a quand même encore des codes à réinventer pour le jeu ou pour la réalisation. Mais en tout cas, j'espère que oui, que ça se démocratise et qu'on aura des projets de plus en plus riches avec des comédiens toujours plus talentueux. Voilà.
Moi, je suis du même avis que Vincent, et je crois qu'il y a vraiment, on l'a vu sur le cast de Projet Orloff, mais on le voit sur d'autres projets, que ce soit de France Culture, France Inter, y compris aussi des studios privés, des acteurs de théâtre, y compris comédie française, pas que théâtre privé. Il y a des acteurs géniaux dans le théâtre privé, c'est pas mon propos, mais aussi acteurs de cinéma. Voilà, on a eu Anne Alvaro, par exemple, je l'ai pas cité, voilà, qui est une grande comédienne, grande actrice. Et bien sûr, pour l'instant, le secteur audio en France ne peut pas concurrencer les cachets du cinéma et même parfois même pas du théâtre. Mais ces acteurs, ces comédiens sont attirés parce que c'est une nouvelle façon de travailler.
C'est un nouveau challenge.
C'est un nouveau challenge. Je me souviens que Pierre Deladonchamp était assez challengé sur les tournages parce que contrairement à d'autres, il n'avait pas l'habitude. Voilà, donc ça lui a beaucoup plu. Il refera la saison 2. Enfin, il jouera à nouveau dans la saison 2. Donc pour moi, ouais, on est sur quelque chose. Et puis quand on regarde aussi au-delà de l'Atlantique ou même de la Manche, on voit que les marchés sont beaucoup plus développés. Et on a des fictions audio très ambitieuses qui sortent tant en termes de moyens que de casting et avec de gros investissements aussi dans l'écriture. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose qui est porteur et qui va se développer.
Également, donc, autour de cette table, Jean-Gabriel Rassa. Bonjour, Jean-Gabriel.
Salut.
Donc, Jean-Gabriel, c'est toi qui as post-produit Noises, accompagné de Célia Brondeau, qui a aussi monté plusieurs épisodes de Noises. Bon, moi, je te connais très bien, mais est-ce que, du coup, en quelques mots, tu peux te présenter ?
Oui, bien sûr. Moi, je suis Jean-Gabriel Rassa et je travaille chez Bababam depuis 4 ans à peu près. Et je suis à la post-production, donc tout ce qui est montage, mixage, enregistrement, sound design. Et donc je travaille, donc, comme tu l'as dit, avec Célia qui a participé aussi au montage, ainsi qu'avec Julien et d'autres personnes en plus chez nous.
Alors on va parler de ta contribution à Noises un peu plus tard, mais avant, du coup je m'adresse à Vincent et à Christian. Est-ce que en quelques mots, sans spoiler, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore écouté les épisodes, on les invite à le faire évidemment. Est-ce que chacun, du coup en quelques mots, vous pouvez nous pitcher vos différents épisodes ?
Oui, avec plaisir. Alors, l'épisode du barrage de Malpassé nous raconte en fait les 20 minutes ou les 15 minutes qui ont précédé en fait l'arrivée de la vague issue de la rupture du barrage de Malpassé sur la ville de Fréjus. Donc, pendant ces minutes, en fait, on se retrouve avec une famille qui passe une soirée tout à fait banale au mois de décembre.
Et dans donc, une ambiance aussi assez rétro.
Dans une ambiance assez rétro, puisque ça se passe à la fin des années 50. Et voilà, donc on va suivre une petite fille dans cette soirée qui a l'air banale et qui va se transformer en quelque chose d'absolument dramatique.
Christian, du coup, sur la fosse ?
Sur la fosse, on revient sur la catastrophe de Liévin-Lens le 27 décembre 1974, qui a vu malheureusement 42 mineurs ne pas se relever. Et c'est également, comme pour Malpassé, les dernières minutes avant la catastrophe. Et nous, c'est ce qui est intéressant, c'est pas une ambiance rétro, alors peut-être dans le langage, bien sûr, ou quelques références culturelles qu'on glisse ça et là, c'est, et je félicite notre ami pour son travail de montage et de post-prod, parce qu'on a vraiment cette ambiance, je trouve, mais tu y reviendras sans doute, anxiogène, des boyaux de mine, des machines, etc., et qui traduit aussi la dureté de ces métiers. Et voilà, sans spoiler plus, on a voulu faire un hommage aussi au peuple des mineurs. Et je trouve que, et j'espère que les auditeurs le trouveront aussi, que le travail qu'on a fait tous ensemble restitue bien ça et forme un hommage qui me plaît.
Merci à tous les trois pour vos réponses. On se retrouve juste après le message de notre partenaire pour continuer cette discussion. Pour rappel, c'est nous qui, enfin c'est Bababam qui a choisi de travailler avec vous pour votre expérience, etc. Je le rappelle, on vous a donné totalement carte blanche pour ces projets-là. La seule condition, c'était que chaque épisode devait être réalisé comme un plan séquence, donc c'est-à-dire un endroit, un lieu sans ellipse. Christian, Vincent, pourquoi vous avez choisi de raconter ces histoires ?
Alors, je pense pas que le concept du plan séquence soit à l'origine même du choix de cette idée. En tout cas, pour moi, Mal passé, c'est une histoire qui m'a toujours vraiment intéressé parce que c'est le contraste entre les 20 minutes qui précèdent l'arrivée de la vague et le moment où le barrage s'est brisé qui m'a toujours paru étonnant, puisqu'il n'y avait pas de système d'alarme pour avertir les gens de la ville. Donc, il y avait cette période, en fait, où le temps était un peu suspendu entre la vie et la mort. Donc, ça a été pour moi, en fait, le point de départ. Ensuite, par rapport au plan séquence audio, effectivement, c'est extrêmement intéressant pour Mal passé, parce que finalement, on va être enfermé dans une habitation. Et donc là, on est vraiment dans un huis clos, effectivement. On sent bien les différents étages, etc. Et à partir du moment où l'habitation va être emportée, eh ben, on va avoir ce plan séquence qui va d'un seul coup avoir un décor complètement différent, puisqu'on va être en fait emporté aussi en tant qu'auditeur à travers la ville, etc., dans les vagues. Donc finalement, ces deux éléments se connectaient bien.
Christian ?
Nous, pour l'anthologie, on nous avait proposé de faire plusieurs pitchs qui étaient tous des faits historiques. On tournait tous, en tout cas, autour d'un fait historique, parfois plus anecdotique, un accident de sous-marin dans le golfe de Gascogne, qui a vraiment lieu dans les années 2010. Où on revenait aussi sur un esprit un petit peu Saint-Ex, aéropostal, Cordillère des Andes, donc voilà. Et ce qui a plu ici à Bababam, c'est effectivement, et c'était peut-être notre histoire la plus signifiante en termes de contenu, en termes d'hommage, je le disais tout à l'heure, voilà, cette catastrophe de Liévin-Lens, bah, elle nous tenait à cœur parce que c'est une page d'Histoire de France qui est encore vivante dans les régions extractives de France, le Nord, la Lorraine, etc., mais qui disparaît. Et je crois qu'on a oublié à quel point ce peuple des mineurs, dont je parlais tout à l'heure, a souffert dans sa chair pour produire du charbon. Il y a quelque chose de tragique dans cette mono-industrie mangeuse d'hommes, puisqu'elle s'est arrêtée assez brusquement dans les années 90, avec des conséquences qu'on connaît tous sur ces bassins d'emploi et la vie sur place. C'était une industrie étatique et on oublie enfin que on continue à consommer du charbon et que sauf que l'extraction elle se fait plus chez nous en France mais ailleurs en Amérique latine, en Asie et on en dépend pour nos produits du quotidien, nos téléphones, etc. Voilà. Donc sans être donneur de leçons parce que c'est voilà
ça reste d'actualité en tout cas.
C'est un thriller. Ouais, on renvoie aussi à une actualité qu'on a un peu oblitérée.
Et je reste sur l'écriture. Quel a été votre travail de documentation pour rendre ces histoires les plus réalistes possibles et les plus fidèles aussi aux faits historiques ?
Alors moi, j'ai choisi sur Mal passé de créer une fiction, c'est-à-dire vraiment une histoire totalement inventée. Donc l'histoire de cette famille, de cette petite fille, ça correspond sans doute peut-être à quelqu'un qui existait, mais c'est pas une personne précise. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis effectivement beaucoup renseigné, j'ai lu énormément de documentation sur la catastrophe, mais aussi sur les années 50, parce que finalement, dans l'épisode, quand vous l'écouterez, on voit que l'immense partie de l'épisode se passe finalement dans une scène banale du quotidien, et finalement, peu importe tout ce qu'on peut connaître sur Mal passé, il faut aussi connaître, on va dire, les habitudes à cette époque. Et en faisant ce travail de documentation, je me suis rendu compte à quel point les habitudes étaient différentes à l'époque, en particulier, par exemple, sur la place des femmes et des mères dans les familles, puisque les mères ne travaillaient pas, ou en tout cas, elles faisaient des études qui les amenaient à faire des choses ménagères. Donc, c'est ce qu'on entend en moment. Donc, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes que j'ai essayé d'évoquer dans la série. Et après, évidemment, il y a tout l'aspect, on va dire, sur la catastrophe, avec toute la ville qui a été dévastée. Donc pour ça, je me suis beaucoup documenté et j'ai essayé de croiser différents témoignages que j'ai pu trouver.
Christian ?
Nous, on a bénéficié avec Antoine et Tanguy des archivinas, qui sont très nombreuses, qu'elles soient audio ou audiovisuelles. C'est une catastrophe qui a été très documentée aussi sur des blogs, des associations notamment d'anciens mineurs ou de victimes. J'ai pu discuter aussi avec le fils de notre personnage principal, qui a pu me donner des témoignages première main, parce que son père est décédé. Il n'y a plus de survivants de la catastrophe aujourd'hui, ils sont tous décédés. Et même si la mémoire reste vivante. Et comme toi, j'ai aussi regardé un peu le contexte socioculturel de l'époque, quels étaient les us et coutumes de ces mineurs, qui avaient un mode de vie très particulier, des conditions de travail très particulières. Et grâce à ces différentes sources vivantes ou écrites, j'ai pu reconstituer aussi le vocabulaire très spécifique. Et donc tout l'art ensuite dans l'écriture, c'était de l'introduire de manière que ce soit significatif tout en restant clair, parce que c'est un vocabulaire très, encore une fois très spécifique. Et après, ça c'est mon côté un peu maniaque, j'ai quand même déterré des archives du BRGM, qui est le Bureau de Recherche Géologique et Minier, pour retrouver le plan de la mine, pour retrouver où on se situait physiquement en termes de... Ça s'appelle des étages, qui correspondent en fait à des métrages, pour retrouver où on se situait. Je vous livre ça presque pour vous faire sourire, parce que c'était une légère maniaquerie.
Mais ça prouve que c'est fidèle à la réalité, que la fiction est fidèle à la réalité.
Voilà, on essaie d'être... le réalisme n'est jamais le réel. Mais avec Antoine et Tanguy, dans nos différents travaux, on essaie toujours d'avoir cette petite signature-là, y compris, peut-être que ça nous fait plaisir, au fond, de pousser les feux jusqu'à chercher le petit détail.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que moi, je ne trouve pas que ce soit de l'ordre de l'anecdotique. Au contraire, parce qu'en fait, on a besoin, là tu parles d'un plan de la mine.
Mm-mm.
Moi, quand j'écris, j'ai vraiment besoin de connaître la forme des décors, c'est-à-dire, je fais des dessins, Donc finalement, je pense que c'est loin d'être anecdotique, au contraire, et qu'on a vraiment, en tant qu'auteur, besoin de connaître, finalement, la forme d'un espace, d'autres éléments comme ça, qui vont nous permettre d'avoir une forme concrète pour placer nos personnages.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est important et c'est amusant parce que moi aussi je griffonne parfois, notamment ensuite ça va être utile pour le réal sur certains projets d'avoir une idée un peu de la spatialisation aussi en termes sonores, tout simplement. Mais c'est vrai que là je parlais des plans du BRGM, là ça devient, c'est un peu excessif, mais c'est aussi en faisant ce genre de chemin de traverse parfois qu'on tombe sur des pépites aussi.
Ouais.
On n'a pas prévu que page 3 du plan, il y aurait une information technique, y compris sur les conséquences de la catastrophe. Puisque dans l'histoire de la fosse, mais comme dans l'histoire de Malpasset, il y a aussi toute une vie ensuite d'un procès, une recherche de la vérité. Et on y fait allusion, je crois, dans chacun de nos projets. Voilà, et donc ça repose aussi... sur une documentation solide, effectivement, t'as raison.
Donc toi, Vincent, tu l'as dit, l'élément de fiction dans cette histoire, c'est au final la vie de la famille, qui, on s'en doute, s'est vraiment passé, mais c'est tes personnages qui sont vraiment des éléments de fiction. Christian, dans La Fosse, c'est quoi les éléments de fiction qui ont été ajoutés, finalement, à l'histoire ?
Toute l'histoire, tous les dialogués, tout ce qu'on entend est inventé. Puisqu'on a évidemment pas ou peu de témoignages sur ce qui a pu se dire à ce moment-là, puisque dans le cadre du procès, le long procès qui a suivi la catastrophe, de tous les témoignages qu'on a pu recueillir, dont je parlais tout à l'heure, pour les victimes survivantes à l'époque, tout ça c'est de l'ordre de l'anecdotique, sinon du privé. Est-ce que j'ai ramené mon sandwich, comment ça va, etc. Donc ça, on l'a évidemment inventé. Néanmoins, on a une idée assez précise du déroulé des faits. Et certaines phrases sont réelles. Ce n'est pas entièrement fictif. On a glissé des bouts de témoignages de première main, de citations. Mais si le contexte est parfaitement exact, tout le déroulé des faits qu'ont suivi nos personnages est reconstitué et imaginé.
Le vrai point commun de ces deux épisodes, c'est vraiment l'univers sonore. Parce que quand on les écoute, on est vraiment immergé dans des univers... différents, mais en même temps des vrais univers. Toi, du coup, c'est un peu un retour dans le temps, avec un côté aussi catastrophe, Vincent. Pour La Fosse, on est à des mètres sous la mine. J'imagine que pour toi, Jean-Gabriel, c'était un vrai challenge aussi de monter ces épisodes et du coup de retranscrire ce qu'avaient imaginé du coup les auteurs, ce qu'avaient posé sur papier les auteurs.
Oui, tout à fait. Comme tout à l'heure, Christian l'évoquait... Moi, dès la lecture du script, je fais un petit peu mon image, mon interprétation, on va dire, des scènes, des décors, un peu comment ça va sonner. Et après, j'ai une connexion Internet, donc j'ai Google. Et donc, j'ai tapé un peu Paris mal passé, et puis la catastrophe de la fosse, j'oubliais le
3-3 bis.
Voilà. Et je suis tombé sur des articles, et surtout pour la fosse en particulier, puisque pour mal passé, c'est un univers un peu plus ordinaire, là où ça se passe. Enfin, c'est une maison, bon, dans les années 50, donc à l'audio, c'est moins compliqué, on va dire, que dans la fosse. Et donc, pour la fosse, moi, je suis allé donc, sur Google, sur l'INA, je suis tombé sur des archives. Léonard, qui réalise l'épisode, m'avait aussi envoyé des liens en mode « voilà, ça peut t'aider, etc. » Et après, moi, je regarde ça, et puis juste, je me dis « ok, ça a cette couleur-là, les artères sont comme ça, le plafond est haut comme ça, je vois un peu les machines qu'ils utilisent. » Et après, je me dis « bon, ça doit sonner comme ça, quoi. Ce truc, c'est du métal, là, c'est avec du bois, tu vois. » Et ainsi de suite, ça part en prod.
Et du coup, tu me confirmes que tout se passe en post-production, c'est-à-dire sound design, il n'y a pas de captation de bruit d'ambiance en studio.
Il
n'y
a aucune captation à part les voix des comédiens. Et après, tout est en full post-production. Alors, ça peut arriver qu'effectivement, un son en particulier, alors ce n'est pas le cas pour les deux épisodes dont on parle, mais qu'on a dû enregistrer une petite bistouille là, pour faire un son qu'on n'arrivait pas ou qu'on ne trouvait pas, justement, ou un truc trop précis. Mais non, sinon, tout est en post-production. Ouais.
Je l'explique, le processus de production d'un épisode, c'est l'écriture, l'enregistrement et le montage. Du coup, on a une troisième personne qui entre dans le process de production, qui est le réalisateur. Donc, pour La Fosse, c'est Léonard Maton qui a réalisé cet épisode. Et pour Le Barrage de Malpasset, c'est Nathalie Bernas. Autant pour toi, Jean-Gabriel, que pour vous, Vincent et Christian, comment se passe du coup la collaboration entre vous et entre surtout le réalisateur, qui au final est un peu le lien entre l'écriture et le montage.
En ce qui nous concerne, pour La Fosse, je ne connaissais pas Léonard personnellement. Il se trouve que c'est le frère d'un ami. Donc, ça a peut-être aidé à...
Le monde est petit.
Le monde est petit, exactement. Et puis, ça s'est passé merveilleusement. C'est-à-dire qu'on avait en partage le même esprit, c'est-à-dire la même sensibilité pour le texte, pour l'histoire, pour les faits. Donc, tout naturellement, il a été extraordinaire, je trouve, dans son casting et dans sa direction d'acteur. Parce que je crois qu'il a su restituer cette tessiture, cette sensibilité. Donc, il n'y a vraiment eu aucun problème. Ça s'est passé, c'est pas toujours comme ça, hein. Ça s'est passé hyper naturellement, hyper bien.
Vous étiez sur la même longueur d'onde.
100%. Puis avec Jean-Gabriel, c'était un super trio, puisqu'il en parlait à l'instant, tout le sound design, toute la post-prod. J'ai, comme toi, poncé beaucoup d'archives et j'ai vraiment retrouvé les sonorités que j'ai appris à entendre, quoi. Je me suis fait l'oreille sur ces... chose que je ne connais pas, j'ai mis les pieds dans un boyau de mine, mais j'ai trouvé que c'était un vrai bon trio et dans le processus que vous avez mis en place ici, je trouvais que ça, on est sur de l'efficacité et en même temps du respect du travail des uns et des autres pour de la qualité donc.
Et Vincent ?
Alors moi je dirais que le rôle du réalisateur c'est de faire en sorte que les dialogues sonnent justes. Donc, c'est aussi un travail d'écriture, forcément. Donc, on a déjà une étape de lecture où on va relire tout le script avec les comédiens, éventuellement changer quelques passages si besoin. Et ensuite, au moment de l'enregistrement, vraiment, le challenge, ça va être de transformer cette fiction audio en un moment de vie. On va se sentir avec les personnages plutôt qu'être dans un livre audio où on va sentir vraiment le texte qui est lu. Donc ça, c'est vraiment pour moi le principal apport du réalisateur, en l'occurrence le travail qu'a fait Nathalie, qui était vraiment très très bon, en particulier avec une comédienne qui était très jeune, donc qui était notre personnage principal, parce qu'il me semble qu'elle avait 11 ans. Donc pour elle, ça a été vraiment pas facile, parce qu'il y a des moments très physiques dans l'épisode. Donc là, Nathalie, du coup...
Et on est dans un studio, un petit studio. Donc,
c'est vrai qu'il y a le côté, sur le moment où on est dans un petit studio face à un micro, et ce qu'on veut raconter qui est diamétralement opposé. Donc il y a vraiment un travail de projection qu'on doit faire avec les comédiens, et c'est ce qu'a fait Nathalie pour vraiment... Nous plonger dans un endroit qui n'est pas ce studio.
Et alors justement, pendant que tout se passe dans le studio, toi Jean-Gabriel, t'es dans ta cabine, dans la régie.
Exact.
À ce moment-là, quand t'enregistres, à quoi tu penses ? Est-ce que t'anticipes justement la post-production ? Est-ce que t'as un rôle en particulier pendant l'enregistrement ?
Tout à l'heure, on parlait des réalisateurs. Et moi, je travaille avec eux. Enfin, j'interviens avec eux pendant l'enregistrement et après, pendant le dérush. C'est-à-dire que pendant l'enregistrement... On fait une prise et on se rend compte qu'au final, ça marche pas forcément. Enfin, cette phrase-là est pas forcément bien. Donc, on s'en parle avec Léonard et Nathalie. On dit, OK, bon, on la tourne différemment pour qu'à l'audio, ça rende mieux. Et après, on a fini l'enregistrement, on passe en dérush. Et là, on va choisir les bonnes prises, celles qui marchent mieux. Souvent, comme on enregistre les scènes, on va dire 3-4 fois, on va dire. Donc, on a, je sais pas, une centaine de prises. Et puis, on choisit lesquelles on prend. Et après, au moment de l'enregistrement, bah, pareil, comme j'ai déjà lu le script, j'ai déjà un peu une idée en tête de comment ça sonne, ainsi que les réalisateurs. Et pendant l'enregistrement, bah, on fait un peu au fur et à mesure, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, voilà.
Moi, je dirais, il y a une citation que je trouve très intéressante du cinéaste Bresson, qui disait à propos du cinéma qu'en fait, il y a trois naissances dans un film. La première naissance qui est au moment du script, la deuxième qui est au moment du tournage, et la troisième qui est au moment du montage. Et je pense que c'est exactement pareil pour la fiction audio. C'est-à-dire qu'on a en tête une première version quand on l'écrit. Au moment de la tournée, finalement, on se rend compte ben, que c'est peut-être assez différent de ce qu'on imagine au départ. Et ensuite, au moment de faire le montage, là, on va à nouveau redécouvrir en fait, cette histoire qu'on avait en tête, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on a enregistrées qui ne sont plus utiles, d'autres qui étaient peut-être tout à fait accessoires, qui deviennent en fait très fortes. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, du coup, à chacune de ces étapes, à remettre en question le script pour suivre, en fait, la vie un peu de cette histoire qui va évoluer tout au long du processus.
Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Enfin, sur la partie montage, c'est vrai qu'on a le script papier, mais y a, une fois qu'on arrive avec les rushs et qu'on est en post-prod, il y a une part un peu d'improvisation où, des fois, moi, je ne suis pas le script et je fais un peu ce qui me passe par la tête. Bon, vous écouterez les épisodes, évidemment. Mais voilà, dans les deux épisodes, il y a des trucs un peu qui ne sont pas forcément écrites, qui sont abstraites, et que c'est juste de l'improvisation. Et après, bon, si ça plaît, ça ne plaît pas, ça a à voir avec les réalisateurs, mais voilà.
Et justement, donc, pour le résultat final, ça vous a fait quoi, tous les deux, d'entendre ce qui était tout droit sorti de votre imagination, se concrétiser, en fait?
C'est très émouvant, on est très contents, surtout, je l'ai souligné... Voilà, c'est une belle collaboration, il y a eu un super dialogue, parce que je pense que, qu'on réussit à travailler comme ça dans l'écoute et justement à sortir aussi de son propre texte pour s'adapter aux contraintes des comédiens, aux contraintes du réal, de la post-prod, de la prod aussi, qui est de l'éditorial tout simplement, et que ça se passe aussi bien que ça s'est passé dans le cas d'Espèce pour nous trois. Ben voilà, c'est parfait. Donc, beaucoup de plaisir à l'écoute. J'espère que les auditeurs... passeront également un bon moment, vont passer un bon moment. Et moi, j'ai, voilà, sans vouloir tresser des lauriers, mal passé, j'ai adoré aussi.
En fait, le moment où on écoute, c'est finalement pour ça qu'on écrit, quoi. C'est vraiment le moment le plus fort. C'est ce moment où on va découvrir ce qu'on avait en tête qui devient concret. Donc, je dirais que c'est vraiment un moment de joie ultime, quoi, en tant qu'auteur, quand on découvre ça. Alors après, il peut y avoir... malgré tout, quand même, des ajustements à faire, puisque forcément, c'est pas d'un coup de baguette magique, c'est parfait. Donc, je pense qu'il y a quand même, au moment des premières versions, un travail d'ajustement qui existe toujours, mais c'est normal. Donc, la première écoute n'est pas forcément l'écoute la plus stupéfiante, mais petit à petit, en fait, on arrive à quelque chose qui devient absolument parfait, raccord avec ce qu'on imagine. Et là, c'est vraiment super.
Merci à tous les trois pour vos réponses. On se retrouve juste après le message de notre partenaire pour continuer cette discussion. Et pour finir, est-ce que vous avez des recommandations de podcasts ou de podcasts de fiction à nous partager ou des choses qu'il faut absolument écouter avant de mourir ou
Moi, je le sais déjà, c'est Noisis.
Évidemment.
Des sources d'inspiration, justement.
Alors.
Désolé, je ne vous avais pas.
Non, pas du tout, mais alors, en fait, moi, j'ai
plein de références à partager.
Projet Our Love.
J'ai une référence, mais ce n'est pas forcément de la fiction. En ce moment, moi, j'écoute des cours de philo, en fait. Et en particulier, alors il y a l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Luc Ferry, qui a fait en particulier un cours sur Kant. Et moi, donc, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait Hippocagne et Cagne, et j'ai un vague souvenir de Kant. Et en tout cas, en écoutant ça en audio, ben, ça m'a vraiment éclairé sur pas mal de choses. Donc voilà, j'écoute ça en ce moment.
Entre Luc Ferry d'un côté, le peuple des mineurs de l'autre, je pense qu'on a compris qu'il y a un auteur de gauche, un auteur de droite autour de la table.
C'est pas ce que je voulais dire justement, mais bon, en tout cas.
Non, je te taquine.
Oui, mais c'est une bonne blague.
Jean-Gabriel, t'as
moi, étonnamment, moi, j'écoute pas trop de fiction audio. Mais je vous recommande évidemment celles qu'on a déjà produites, donc Silencio et Passage à l'acte, qui sont des masterclass.
C'est bien tes corpos.
Oui, je sais.
Et Christian ?
Moi, je suis passé à côté d'un train qui est parti en 2012, que je viens de découvrir. C'est un podcast américain qui s'appelle Welcome to Night Vale. Moi, je pense qu'il faut espacer les écoutes, parce qu'on en a un côté itératif. Mais c'est une espèce de... comment dire, de dédicace à l'univers de Twin Peaks, un peu à ces univers surréalistes, gothiques. Donc c'est l'histoire d'une petite ville américaine où tous les complots imaginaires deviennent réels. Et on entend le speaker d'une radio locale, communautaire, qui explique « ne faites pas attention aux hélicoptères noirs qui survolent la ville en ce moment » ou « nous venons d'inaugurer un nouveau parc pour chiens, n'y allez surtout pas ». Voilà, avec les questions d'un mystérieux conseil municipal qu'on ne voit jamais, de la police secrète. Et c'est un peu, c'est assez baroque, ça m'a bien plu cette découverte. Donc voilà, et je crois qu'il y a une communauté d'auditeurs français qui l'a traduite.
Okay.
Et ils ont enregistré un son d'épisode en français adapté. Donc à écouter, vous retrouvez ça sur les internets. Et je parle comme un vieux. Et par ailleurs, voilà, aussi un peu corpo pour le service public. France Culture a sorti énormément de choses au-delà de Projet Orlov qui sont super. Et c'est Mal Passé qui me fait penser, je crois que ça s'appelle Les Disparus de Bavourlan. Une fiction autour d'un, voilà, ça tourne autour d'un barrage aussi, sauf que cette fois-ci, c'est pas une rupture de barrage, mais une baisse de niveau d'eau qui fait réapparaître un village englouti où on va retrouver deux squelettes enlacés et pom pom pom.
Écoutez-le. Et c'est une histoire vraie ou...
C'est une fiction.
C'est une fiction.
Une fiction, mais librement inspirée.
De faits réels ?
De faits réels. Il y a eu des histoires, oui, de disparitions. Et de baisse de niveau d'eau dans les barrages. Ça a inspiré beaucoup d'autres fictions. Je pense en revenant sur Canal à l'époque, qui partait aussi de ce point de départ-là. Et puis même, on le voit, là, que ce soit en Italie ou en France, il y a, avec les grandes chaleurs, des baisses de niveau d'eau. Et c'est vrai que, je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais moi, je vois ça, le clocher commence à dépasser, c'est hyper inspirant. Tu mets tous les mystères. Voilà, Héros, Thanatos, la ville morte qui revient. Voilà, donc, je conseille ça. Et de manière générale, vous trouvez, je vais rester corpo, énormément de contenu audio, ça, on le disait tout à l'heure, ça se développe beaucoup, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, même au niveau associatif, fiction, non-fiction. Donc ouvrez grand les oreilles, et autour de moi, je vois de plus en plus de gens qui, brusquement, ça peut être avec Bababam, avec d'autres, vont tomber sur un contenu, ils vont adorer, s'ils tombent bien. Et un contenu en amène un autre. Et ensuite, ça devient, au même titre qu'on se met à écouter de la musique classique, ou qu'on se met à aller regarder de l'opéra, ou qu'on se met à bouquiner des essais. Il y a un début à tout. Donc, je conseille vraiment aux auditeurs de se faire l'oreille et de ne pas hésiter aussi à prendre un temps réservé. Parce qu'il y a des fictions qui s'écoutent très bien en faisant la vaisselle, du repassage ou même un footing. Et d'autres, il faut mettre ses fesses sur son canapé, mettre un bon casque et fermer les yeux. Voilà, il ne faut pas hésiter.
Christian, du coup, tu le disais, il y a la saison 2 de Projet Orlov qui est en production. Est-ce que tu as d'autres projets à venir, que ce soit du podcast ou autre ?
Oui, avec Basile Adair, qui se trouve être un ancien vice-bâtonnier de Paris, mais qui est aussi auteur de pièces de théâtre. Lui, on a co-écrit, surtout lui l'auteur principal, mais je l'ai aidé à porter une pièce sur l'affaire Patrick Henry, qui est un peu le procès de la peine de mort, qu'on a vendu à France Culture. Et j'espère que ça va partir en production à l'automne. Et il s'agirait de la jouer d'abord sur scène à l'espace Cardin du théâtre de la ville et d'en faire un enregistrement qu'on remontera ensuite pour en faire une pièce radiophonique. Là, on est vraiment dans les années 30, mais c'est ça, c'est une pièce radiophonique. Donc, c'est
un enregistrement en public.
C'est ça, avec du public. Vous serez tous invités. Et donc, ça, c'est un projet qu'on a sur le feu. Et sinon, avec mes co-auteurs, on sort à peine de la saison 2, comme je vous le disais, comme tu le rappelais, de Projet Orlov. Et on a d'autres envies, tant audio qu'audiovisuel. Voilà, il va se passer beaucoup d'actualités. Je fais des allusions sans dévoiler. 2024, les élections européennes, qu'est-ce que ça nous inspire ? L'Europe, ce continent qui a fait déjà couler beaucoup d'encre, y compris en fiction, je pense qu'il y a des choses à faire et à refaire. Et puis, par ailleurs, on a une actualité chargée géopolitique, donc ça donne aussi un peu envie de regarder vers nos armées, hein, et de voir un peu ce qu'elles ont à nous dire, et comment on peut les raconter aussi, au-delà du travail qu'elles peuvent faire déjà, cette armée, avec la Red Team, qui est un collectif de scénaristes qui imagine des fictions géopolitiques dingues. Je trouve ça très inspirant.
Et Vincent, du coup, quelles sont tes actualités ?
Alors, mes actualités, moi, je suis, en développement, écriture de différents projets. Et je travaille en parallèle sur des histoires assez ambitieuses, feuilletonnantes, en plusieurs épisodes, un peu sur le modèle de Queens of Snakes. Donc, en l'occurrence, un projet, une dystopie, voilà, que je suis en train de développer. Donc, je suis en pleine écriture. Et en parallèle de ça, je développe un projet unitaire qui est plus, on va dire... une voix qui nous raconte une histoire. Chaque histoire sera très différente, avec un point commun qui sera une fin, une chute assez noire, et c'est sur le modèle des nouvelles de Maupassant. Donc ce serait des petites histoires assez ironiques, assez cruelles, qui sont toujours focalisées sur un personnage, mais dans un univers très contemporain, donc qui est le monde d'aujourd'hui. On va suivre différents personnages comme ça.
Merci à tous et à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à aller découvrir ces deux épisodes dont on a parlé de Noises sur toutes les plateformes d'écoute. Donc Le Barrage de Malpasset, qui a été écrit par Vincent Rébois, réalisé par Nathalie Bernas et monté par Jean-Gabriel Rassa, et La Fosse, écrit par Christian Brugerolles, Tanguy Blum et Antoine Piombino, réalisé par Léonard Maton et monté également par Jean-Gabriel Rassa. Deux épisodes produits par Bababam. On se retrouve très vite pour un prochain épisode dans lequel on parlera de la dystopie dans la fiction sonore avec Mehdi Bayad et Nathalie Bernas. Merci à Laura Barbaret d'avoir préparé cet épisode et merci à vous pour votre écoute.
Merci.
Ciao. Merci, à bientôt.
Merci.